On va parler de climat et de conséquences du dérèglement climatique ce matin avec tout d'abord les crues en Valais de cet été, conséquences financières puisque le canton vole au secours des entreprises touchées, enfin de certaines pour l'instant, des entreprises dites systémiques. Novelis, souvenez-vous, leader dans des pièces en aluminium pour l'industrie automobile, en fait partie. Novelis qui a été arrêtée des semaines après les intempéries, elle devrait pouvoir bénéficier d'une caution de l'État du Valais pour un prêt à hauteur de 100 millions de francs. On en parle avec son directeur à 7h15. Et puis la COP29, c'est dans 3 semaines en Azerbaïdjan, à Bakou. On reçoit la représentante scientifique de la Confédération à cette COP, Géraldine Pfliger, c'est sa 4e COP et elle est l'invitée de cette matinale. On démarre avec le journal de Miguel Hernandez. Bonjour Miguel.
Bonjour Valérie. La Suisse doit maintenir son soutien à l'UNRWA, le plaidoyer hier de grands noms de la diplomatie suisse. Il demande au Conseil des États de revenir sur la décision du national de couper les vivres à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Session extraordinaire au Grand Conseil valaisan hier. Les députés sont revenus sur les intempéries qui ont ravagé une partie du Valais cet été. Ils ont accepté à l'unanimité de créer une commission d'enquête parlementaire pour déterminer la responsabilité de l'État. Trésors, statues, sarcophages, bijoux, le Grand Musée égyptien a ouvert en partie ses portes hier. Il accueillera en Égypte la plus grande collection d'antiquités égyptiennes sur 500 000 mètres carrés. Reportage en fin de journal. La Suisse doit absolument continuer à soutenir l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une série de personnalités de la diplomatie helvétique le demande. Carla Del Ponte, Jacques de Watteville ou encore Yves Daccord ont écrit hier au Conseil des États. Objectif, Étienne Kocher, obtenir un retour en arrière sur la décision du Conseil national de couper les vivres à l'UNRWA.
Malgré ces critiques répétées, Israël n'a fourni aucune preuve de complicité entre le Hamas et l'UNRWA. L'agence de l'ONU pour les réfugiés de Palestine existe depuis plus de 70 ans. Elle protège aujourd'hui près de 6 millions de personnes dans plusieurs pays. Alors cesser de la financer, c'est punir tous les réfugiés palestiniens du Moyen-Orient. Or, c'est précisément ce qu'a décidé le Conseil national le 9 septembre dernier. Cette décision, Nago Humbert n'en revient toujours pas. Fondateur de Médecins du Monde Suisse, il est aujourd'hui responsable d'un observatoire éthique et santé humanitaire.
C'était une décision totalement idéologique, sans analyse et en se mettant du côté total de la politique israélienne. Je ne veux pas que la Suisse s'associe à ça.
Autour de lui, Nago Humbert a rallié de grands noms de la Suisse internationale, anciens ambassadeurs, experts du Moyen-Orient ou encore secrétaires d'État. Il plaide la cause de l'UNRWA auprès du Conseil des États.
Ce qui m'a beaucoup blessé aussi, c'est d'entendre des femmes et des hommes politiques dire « Non, mais vous en faites pas, on va donner l'argent à des ONG suisses qui vont remplacer l'UNRWA. » C'est impossible. C'est pas vrai que les ONG suisses peuvent remplacer l'UNRWA.
Les femmes et hommes politiques du Conseil des États entendront-ils, eux, cet appel? Leur commission de politique extérieure donnera son mot d'ordre à la fin de la semaine prochaine avant un vote en plénum.
Le Grand Conseil valaisan s'est penché hier sur les intempéries de cet été lors d'une session spéciale.
Au cœur des discussions, la responsabilité de l'État dans ces crues historiques, en particulier à Sierre. En septembre dernier, tous les partis annonçaient d'une même voix exiger une commission d'enquête parlementaire, une CEP, avec pour but de faire la lumière sur les retards de la sécurisation du Rhône. La demande a été voté hier à l'unanimité du Parlement. Le conseiller d'État Franz Ruppen, en charge du dossier, se prépare à un gros travail.
Il faut la transparence, il faut tout mettre sur la table pour voir qu'est-ce qui était fait ces dernières 20 ans ou plutôt qu'est-ce qui n'était pas fait. Et il faut voir où il y avait des dysfonctionnements, qu'est-ce qui n'a pas joué, mais surtout aussi comment l'État peut s'améliorer. Il faut tirer les leçons pour faire mieux une autre fois.
Et si la responsabilité de l'État est engagée, qu'est-ce que ça pourrait signifier? L'État pourrait peut-être devoir payer des dommages et intérêts.
Alors, s'il y a vraiment une responsabilité de l'État, il faut que l'État prenne en charge sa responsabilité. Mais c'est pas si simple. Il faudrait des procédures et tout ça. On attend une fois maintenant les résultats de la CEP. Ça va durer un moment. Et puis après, on verra la suite.
Un des propos recueillis par Romain Boisset. Le Grand Conseil valaisan est entré en matière sur une aide aux entreprises, mais a refusé la création d'un fonds cantonal d'aide aux victimes. Le secrétariat d'État aux migrations aura un nouveau patron à partir du 1er janvier prochain. Il s'agit de Vincenzo Mattioli. Âgé de 54 ans, il est actuellement le responsable des affaires internationales au sein du SEM. L'UDC et le PLR ont vivement critiqué hier sa nomination. Ils le jugent trop à gauche et estiment qu'avec lui, le chaos de l'asile va se poursuivre. À Genève, le peuple devra décider s'il sait voir baisser ses impôts. La campagne en vue des votations du 24 novembre a été lancée cette semaine. L'ensemble de la droite genevoise soutient cette baisse de 8,7% en moyenne pour les personnes physiques. Tania Saspinard, hier, c'était au tour du Conseil d'État d'entrer en piste.
Le gouvernement compte bien faire entendre sa voix puisque c'est lui qui a proposé cette baisse en mars dernier. Une décision prise au moment d'annoncer des recettes fiscales bien plus élevées qu'attendues. C'est bien ce qui inquiète la gauche qui craint une baisse des prestations publiques dès que les finances retourneront dans les chiffres rouges. La présidente du Conseil d'État genevois, Nathalie Fontanet, se veut rassurante.
Si à un moment donné, nous devions nous trouver dans une situation financière plus délicate pour le canton, peut-être que nous pourrions être amenés dans 3 ans, 4 ans, 5 ans à faire des économies. Mais j'aimerais rappeler que l'ensemble des baisses d'impôts qui ont été proposées jusqu'à présent, que ça soit celle de 1998 ou la réforme de la fiscalité des entreprises dernièrement, ont montré à quel point elles étaient favorables à l'économie. Et au contraire, nous n'avons jamais eu à souffrir de baisses de recettes fiscales.
Pourtant, dans un premier temps, elle reconnaît que le canton devrait perdre 326 millions de francs par année. Mais selon le gouvernement, il est grand temps de redonner du pouvoir d'achat aux Genevoises et aux Genevois. Si elle est acceptée, cette baisse de l'impôt sur le revenu entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2025.
Au Proche-Orient, les responsables israéliens ont à nouveau menacé de frapper l'Iran.
Ce serait une riposte à l'attaque du 1er octobre lorsque Téhéran avait tiré environ 200 missiles sur l'État hébreu. Ils ont précisé qu'ils décideraient seuls des cibles à frapper. Le président américain Joe Biden avait appelé Israël à épargner les sites pétroliers et nucléaires, des menaces qui provoquent peur et angoisse chez de nombreux Iraniens. Siavosh Gazi.
La question d'une attaque israélienne revient dans toutes les conversations depuis plus de 15 jours, alors que jusque-là la guerre était lointaine. Pour Mohamed, un garagiste d'une cinquantaine d'années, la perspective d'une frappe israélienne est une grande crainte.
Nous sommes bien sûr inquiets. Ils ont dit qu'ils ne frapperaient pas les villes et les gens. Il y aura des effets. S'ils frappent les sites pétroliers ou nos industriels, cela aura des conséquences sur nous. Je suis commerçant et lorsque l'Iran a frappé Israël, cela a eu des effets sur nos affaires. La menace même de frapper l'Iran a complètement perturbé le marché. Il ne se passera peut-être rien, je l'espère, mais si des frappes se produisent, il y a de très mauvais effets sur nous.
L'économie iranienne souffre grandement des sanctions américaines et européennes, avec une inflation qui dépasse tous les ans les 40%. Pour Ali Reza, un chauffeur de Snap, l'équivalent d'Uber en Iran, une attaque israélienne va certainement aggraver la vie de tous les jours. Une vie qui est déjà difficile.
Nous n'avons pas peur, car nous sommes tous les jours en train de courir pour vivre. Qu'Israël attaque ou pas, ça ne changera rien. Nous courons tous les jours. Notre vie est une guerre de tous les jours. C'est vrai que la guerre va tout empirer. Ça a toujours été le cas. Nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes des gens simples. Nous ne pouvons pas intervenir dans la politique ou dans la vie économique. Ça ne change donc rien pour nous.
En tout cas, les responsables iraniens ont prévenu que Téhéran ripostera à toute attaque israélienne, ce qui fait craindre une généralisation du conflit à toute la région. Siavosh Kiazi, pour RTS Info, Téhéran.
L'armée israélienne qui aurait attaqué un entrepôt d'armes en Syrie. L'agence de presse syrienne Sana a fait état cette nuit d'une attaque aérienne ayant provoqué des incendies dans la ville côtière de Latakia. Aucune victime n'est à déplorer. Et dans le même temps, dans le nord-ouest du pays, des bombardements russes ont fait 10 morts à proximité de la ville d'Idlib. La baisse des tarifs de l'électricité va-t-elle donner une bouffée d'oxygène aux boulangeries? La flambée des prix avait mis à mal les boulangers, gros consommateurs d'énergie entre les fours et les chambres froides. Pour Laurent Buet, patron des boulangeries lausannoises du même nom, cela ne fait pas une grande différence, même si les faillites qu'il avait prédites au mois de janvier dernier n'ont pas eu lieu.
Fort heureusement, nous n'avons pas eu trop de faillites, nous en avons eu quelques-unes, mais bien moins que ce qu'on avait programmé. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a pris les choses en main. Nous avions des entreprises qui étaient de 2e à 3e génération et qui avaient des augmentations du prix de l'électricité de x2, x3. Nous avons consulté les autorités et nous avons réussi à trouver des solutions pour aplanir ces augmentations et puis pour les différer un tout petit peu. Alors maintenant, le drame, c'est que l'électricité baisse, mais quand vous signez un contrat, eh bien qu'elle baisse ou qu'elle augmente, eh bien vous restez au prix que vous avez signé. Et le prix qu'ils ont signé il y a une année ou deux ans, eh bien il est extrêmement élevé par rapport à maintenant.
Des propos recueillis par Cléa Favre.
En Égypte, un musée aux dimensions pharaoniques rouvre ses portes.
Construit sur près de 500 000 m² à côté des pyramides de Gizeh, le grand musée égyptien va proposer la plus grande collection d'antiquités égyptiennes au monde. Après le hall du musée et son grand escalier ouvert il y a un an aux visites, hier, les principales salles d'exposition ont enfin accueilli les visiteurs. Une première étape pour un projet de plus d'1 milliard de dollars, Alice Moreno.
c'est un écrin gigantesque qui renferme les trésors de l'Égypte antique. Au rythme d'une musique qui rappelle le règne des pharaons, Angèle, une touriste américaine, s'émerveille.
Le musée est absolument incroyable. C'est un mélange d'histoire antique et de modernité. Nous avons pu voir Ramsès et beaucoup de sarcophages. Tout le monde devrait venir voir ce très bel endroit.
Sa pièce favorite, cette grande statue de Ramsès II haute de 11 mètres qui trône au cœur du hall d'entrée du musée. Et désormais, les salles d'exposition principales vont aussi ouvrir aux visites. Tayeb Abbas est en charge des affaires archéologiques au ministère des Antiquités égyptiennes.
Nous annonçons l'inauguration expérimentale des salles principales qui permettront de découvrir l'histoire de l'Égypte antique de 7000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 394. Il y a 12 galeries agencées pour montrer l'histoire, les espoirs, les peurs, les vœux des anciens Égyptiens.
Dans un premier temps, seuls 4000 visiteurs chanceux pourront accéder à ces nouvelles salles quotidiennement. Gehad, une jeune Égyptienne en vacances, a hâte de les découvrir.
Vraiment, c'est une fierté pour moi en tant qu'Égyptienne et c'est un cadeau précieux pour les Égyptiens et le monde entier.
L'inauguration du musée dans son intégralité devrait avoir lieu en 2025. Les salles de Toutankhamon seront les dernières à ouvrir, le dernier joyau de ce projet pharaonique. Alice Moreno pour RTS Info, Le Caire.
En hockey sur glace, succès du LHC 2-0 contre Tapara Tampere hier soir en Ligue des Champions. Un derby lémanique figurera au programme des huitièmes de finale de la compétition le mois prochain. Lausanne va affronter le Genève Servette. Et puis toujours en hockey sur glace en National League cette fois. Hier, Ajoie a subi une véritable correction sur la glace de Zoug. Les Jurassiens se sont inclinés 7-1. Les fans de One Direction sont en deuil. Le musicien britannique Liam Payne, ancien membre du boys band, est décédé hier à l'âge de 31 ans. Il aurait chuté du troisième étage d'un hôtel de Buenos Aires, a annoncé la police. L'année dernière, il avait annoncé travailler sur un deuxième album et venait de sortir un nouveau single en mars 2024.
C'était votre journal, Miguel Hernandez. Merci Miguel. Le temps sera changeant aujourd'hui avec quelques précipitations sur le Jura et l'ouest lémanique, surtout ce matin. Ailleurs, un temps sec et de belles éclaircies de fun du Valais central aux Préalpes. Les températures 17 degrés au meilleur de la journée et jusqu'à 23 en Valais. À 6h12, la suite de cette matinale, la plus grande statue du Christ au monde. Elle se trouve désormais en Arménie, financée par un puissant homme d'affaires. Elle n'est pas au goût de tout le monde, vous l'entendrez dans la chronique RTS Religion. Sport matin et du bobsleigh, pas un sport qu'on commence tout jeune comme sport principal. On y vient surtout dans une deuxième carrière. On appelle ça un sport de reconversion. Anthony Levert nous l'expliquera. Et puis le nouvel album de Samara Joy, révélation jazz dans Vibration.
RTS, la première, Valérie Aouert.
Voici Pierre Guénard qui vous interprète Tant mieux. Bon réveil à tout le monde.
Tu m'as fait de la peine, je m'en veux. La coupe est pleine et demain est précieux. J'ai pas de haine, j'ai mieux. Perdu mon temps, ma dignité. Si tu m'entends, il est temps de m'écouter. Finalement, je m'en vais. J'ai fait gentiment, gentiment, sans compter sur tes sentiments, sentiments. Tu m'as gentiment, gentiment baladé. C'est un aveu, un adieu. C'est tant mieux. S'empile, mes bouquets fanés, mes appels inutiles plantés sur ton palier. J'ai attendu, j'ai couru, concouru, trop con, j'y ai cru. Raté. J'ai fait gentiment, gentiment, sans compter sur tes sentiments, sentiments. Tu m'as gentiment, gentiment baladé. C'est un aveu, un aveu. Ce qui vient demain et demain m'emmène au loin, loin à...
leader du groupe Radio Elvis, Pierre Guénard, signe son retour en solo avec Tant Mieux. Un prochain album attendu au printemps prochain. Le chanteur dévoile ce nouveau single, un single signé Vianney. Direction l'Australie, maintenant, dans une région très sévèrement touchée par les gigantesques feux de forêt qui ont ravagé le pays il y a 4 ans. Plus précisément, dans une petite ville, Manyana, où les habitants ont décidé de se mobiliser pour protéger une forêt, la seule épargnée par ces incendies dévastateurs. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, cette forêt est menacée par un danger plus grand encore, le risque d'être rasée entièrement pour y construire 150 maisons de vacances. Notre correspondant en Australie, Grégory Pless, s'est rendu sur place.
4 ans après les plus graves incendies qu'ait connus l'Australie, ces stigmates sont encore très visibles. Sur des kilomètres, des troncs d'arbres calcinés, recouverts partiellement par de la végétation, mais d'où presque toutes les espèces animales ont disparu. C'est d'ailleurs ce qui avait choqué Lorraine quand elle avait enfin pu rentrer chez elle à Manyana.
Quand on est revenu, c'était le silence total. Il n'y avait plus d'oiseaux, on n'entendait plus les bruits des insectes. Les kangourous, les plus grands, qui nous rendaient visite chaque jour et qu'on observait depuis des années, avaient disparu.
Les feux dans ce secteur ont en effet ravagé 95% du parc national qui borde Manyana. Mais par miracle, une petite forêt de 20 hectares a été épargnée. Elle est logiquement devenue un refuge pour les animaux ayant échappé aux flammes. C'est ce que nous explique Lex, il est sauveteur animalier.
Les zones qui ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud sont plus grandes que certains pays d'Europe. On a perdu tellement de bouches, mais cette petite forêt, elle, est un petit refuge qui est toujours là. Et elle est pleine d'animaux sauvages.
Bill Eger le confirme, il est le président du collectif Manyana Matters.
Si vous regardez là-haut, dans cet arbre, il y a un creux où vivent des mammifères arboricoles. Et ces griffures sur cet arbre, vous les voyez? Ça, c'est quand des opossums volants atterrissent sur cet arbre. Cette forêt est pleine de ces exemples et pourtant elle va être détruite.
Il y a quelques jours, en effet, le ministère de l'Environnement a délivré à un promoteur l'autorisation de raser cette forêt pour y construire environ 150 logements de vacances. Une décision incompréhensible, selon Bill.
Une partie de cette forêt est considérée par le gouvernement fédéral comme un habitat en danger d'extinction imminent, et par l'État de Nouvelle-Galles du Sud comme un habitat menacé d'extinction. Mais il va quand même être rasé par des bulldozers. Quelle est la logique dans tout ça?
Les autorités elles-mêmes semblent en effet avoir du mal à la trouver, chacun du niveau fédéral au conseil municipal local se renvoyant la balle. Une indécision et un manque d'intérêt pour les questions environnementales qui irritent Neville, un autre membre du collectif.
On parle du futur de nos enfants, de mes petits-enfants, et j'aimerais que cette forêt reste telle qu'elle est. On finira par apprendre de nos erreurs, mais sûrement trop tard. C'est atroce. Nous avons un bilan effroyable de destruction de l'environnement. Nos politiciens s'en fichent et ça me fait vraiment de la peine.
En attendant, le promoteur, lui, a positionné ses premières machines de chantier.
Le reportage de Grégory Pless, notre correspondant en Australie pour Tout un Monde. Reportage à réécouter tout à l'heure dans Tout un Monde à partir de 8h10. Bonjour Mathias Wirtz.
Bonjour Valérie.
La chronique RTS Religion avec vous. Ce matin, 77 mètres de haut, ce sera la plus grande statue du Christ au monde. Elle doit voir le jour dans les prochains mois en Arménie. Sauf que ce projet d'un riche oligarque du pays provoque des remous.
Oui, des remous qui ont interrompu ce chantier titanesque durant 2 ans. Mais les travaux ont repris à la fin de l'été et la l'assemblage des différentes parties de la statue en aluminium, imitation pierre blanche, aura finalement lieu dans le courant de l'automne, selon le quotidien La Croix. Le monument percera alors le ciel arménien au sommet d'une montagne de plus de 2500 mètres au nord-est de la capitale Erevan. Avec ses 77 mètres, en comptant le socle en béton, eh bien cette œuvre dépassera de plusieurs têtes l'actuel détenteur du record mondial en Pologne, un Christ roi haut quand même de 52 mètres, et la célèbre statue du Rédempteur ascenseur, vous savez, à Rio de Janeiro, qui culmine à 38 mètres, eh bien, ne lui arrivera en fait qu'à la taille.
Et l'exploit, Mathias, n'est pas du goût de tout le monde.
En effet, plusieurs ministères sont vent debout en Arménie. Il faut dire que le site choisi est classé au patrimoine naturel. Il abrite aussi les fondations d'une forteresse du 3e millénaire avant notre ère. Les archéologues ont d'ailleurs dû excaver le site en toute hâte avant l'arrivée des bulldozers. Et le projet de statue n'avait ni permis de construire, ni étude d'impact.
Et ça n'a pas suffi à bloquer le projet?
Eh bien non, Gagik Tsaroukian, le puissant homme d'affaires qui le finance, a le bras long. Et pour la petite histoire, le bras fort aussi, puisqu'il a remporté le titre de champion du monde de bras de fer en 1996. Ce n'est pas une blague. Et il a donc maintenant aussi pu faire plier les autorités en faveur de sa statue. Ajoutons que ce Jésus monumental s'attire également les foudres de l'église orthodoxe du pays à laquelle appartient près de 90% de la population. Dans la tradition de ce rite oriental, on n'érige jamais de statues divines, mais seulement des croix en bas-relief sculptées dans le tuf rouge, ce qui fait dire à un prêtre arménien que l'oligarque a privatisé une montagne tout entière au nom de Jésus, mais en fait pour son seul profit.
Mathias, comment l'homme d'affaires défend cette initiative?
Alors pour lui, la statue rappellera au monde que l'Arménie a été la première nation à devenir chrétienne, c'était il y a 1700 ans, pardon. Et selon l'entrepreneur, qui est aussi une des plus grosses fortunes du pays, d'ailleurs mêlée à plusieurs affaires de corruption, eh bien le monument attirera des millions de touristes. Ce à quoi un évêque orthodoxe atterré par le projet rétorque, eh bien ça fera au moins un bon emplacement pour faire des pique-niques le dimanche.
Merci beaucoup. Mathias Viers pour la chronique RTS Religion.
Avec la RTS, ouvrons les yeux sur le monde. À Bornéo, la forêt tropicale est plus que jamais menacée. Deux jeunes enfants et un bébé orang-outan vont braver tous les obstacles pour lutter ensemble contre cette destruction programmée.
Vous n'avez pas le droit de rentrer sans notre accord.
Cette forêt appartient au gouvernement. Officiellement, personne n'habite ici.
Sauvage, le nouveau film d'animation de Claude Barras à découvrir actuellement en salle.
Le progrès est en marche.
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo du lundi au vendredi à 17h sur RTS La Première et sur l'application Play RTS.
À 6h23, les cours d'éducation sexuelle à l'école. Maintenant, ils font régulièrement polémique. Depuis quelques mois, c'est à Genève que le débat ressurgit. Ces cours ont été introduits dans les années 70. Mais comment parlait-on de sexualité à l'école à l'époque? C'est l'archive du jour. Katia Beach.
Vous savez que quand deux personnes s'aiment, ils ont envie de tout partager. Et puis, il arrive à certains moments ils ont envie de montrer l'un à l'autre leur amour d'une façon très particulière. Ils se mettent côte à côte et puis le papa peut introduire son zizi, on va appeler ça un zizi parce que c'est le mot qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, je vous dirai tout à l'heure le vrai mot. Il peut introduire son zizi dans le petit chemin de la maman.
Et nous sommes en novembre 1970 dans une école de Bétain dans le canton de Vaud. C'est le premier canton à avoir introduit des cours d'éducation sexuelle à l'école.
Et c'est ça qui est tellement merveilleux, c'est que justement, chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, c'est qu'il y a deux personnes qui se sont aimées.
L'émission « Le monde vous appartient » a posé ses caméras au fond de la classe. Les élèves ont entre 10 et 11 ans.
Et puis, est-ce que vous savez comment ça se passe au moment où il va naître? Ça vous gêne? Alors dites. Parle derrière. Vous êtes tous d'accord avec ça?
Non.
Parle nombril?
Moi?
Oui? Oui?
Mais pas tout à fait quand même.
C'est ni le derrière, ni par là où on fait pipi. Il y a un troisième chemin qui est exprès pour le bébé.
Des cours sont aussi dispensés aux élèves de 14-15 ans avec un focus sur la contraception. En 1970, l'église est encore opposée à la pilule.
Alors, le plus simple de tous, c'est le préservatif masculin. Préservatif masculin, où est-ce qu'on se le procure si on en a besoin?
Nous sommes dans une classe d'Yverdon-les-Bains, le 30 novembre 1970.
Une ordonnance médicale, bien?
Non.
C'est en vente tout à fait libre, donc c'est facile de l'avoir. Vous savez que la pilule, elle, doit être prise uniquement sur ordonnance. On trouve de temps en temps des pharmaciens qui la vendent sans ordonnance. Mais c'est illégal et ça peut être dangereux.
Vincent, Marcel, le résultat de 2 heures de cours.
Oh ben, je trouve que c'était une émission très importante qui nous manquait justement à l'école jusqu'à maintenant. On n'a jamais eu des cours comme ça.
Dites-moi, vous avez envie de vous marier plus tard?
Bien sûr.
Ah, c'est clair. Votre mariage, il faudra que pour votre femme, ça se passe avec une robe blanche. Votre femme, il faudra qu'elle soit vierge.
Dans 10 ans, on ne peut pas le dire, ça. Mais non, je pense que...
Non.
Je pense pas, non.
Non.
Et surtout dans 10 ans, que les mœurs seront encore plus évoluées, alors ça fera plus rien.
Vous-même, il y a des gars qui pensent qu'il vaut mieux se réserver pour la fille qu'ils aimeront pour leur vie.
Mais je trouve ça complètement stupide.
C'est idiot. Profiter le maximum, comme ça avoir le plus d'expérience possible jusqu'au mariage. Moi, je trouve que c'est une bonne solution.
La fille devrait faire la même chose à ce moment-là.
Mais moins, je crois.
D'accord, moins, mais j'essaiera quand même, de toute façon.
Tous les garçons et les filles.
Dans les années 80, avec l'apparition du sida, l'éducation sexuelle se généralise, avec de grandes disparités selon les cantons et les établissements. Aujourd'hui, ces enseignements sont dispensés dans toutes les écoles et font partie des plans d'études régionaux.
L'archive du jour, Katia Beach, profiter avant le mariage, les filles comme les garçons, mais quand même un peu moins. Il y avait encore du boulot dans les années 70. Encore un peu de musique avec Over the Rainbow. Bon réveil si vous ouvrez l'œil. C'est une reprise Over the Rainbow par un artiste d'origine, un chanteur hawaïen qui s'appelle Israël Kamaka Wowiole. Je ne sais pas si j'ai prononcé juste, c'était pas évident. On va voir ce qui se passe sur la route.
Infotrafic RTS.
J'ai pas prononcé juste, j'ai envie de relire, c'est pas grave. La circulation s'écoule sans perturbation de grande ampleur en Suisse romande.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Le temps sera changeant aujourd'hui avec quelques précipitations sur le Jura et l'Ouest lémanique, surtout ce matin. Sinon ailleurs, un temps sec et de belles éclaircies de Fun du Valais central au Préalpes. Les températures au meilleur de la journée, 17 degrés et jusqu'à 23 en Valais. Il est 6h30. l'heure du journal de Charlotte Frossard. Bonjour Charlotte.
Bonjour. Après le Conseil d'État direction les Jeux d'hiver, le magistrat valaisan Frédéric Favre l'a annoncé hier, il ne priera pas de troisième mandat. Il dirigera à la place la candidature suisse au JO 2038. L'asile politique, c'est ce que demande Paul Watson à la France. Le défenseur des baleines espère éviter ainsi une extradition au Japon et une lourde peine de prison. Plus de choix de programme, meilleure qualité sonore. Le numérique remplacera bientôt la FM, mais pas de panique. Vous pourrez garder votre bonne vieille radio pour nous écouter. On fait le point en fin de journal. Frédéric Favre l'a annoncé hier, il ne se représentera pas en mars pour un troisième mandat à l'exécutif valaisan. Le conseiller d'État PLR a invoqué des raisons personnelles sur sa page Facebook, mais on l'apprenait hier, il a été nommé directeur de l'association Jeux Olympiques et Paralympiques de Suisse 2038 à partir du 1er mai prochain. Frédéric Favre n'a pas souhaité donner d'interview. Diana Liss-Ramsauer a donc tendu son micro au vice-président de son parti, Thomas Birbaum du PLR Valais. Il a salué le travail effectué jusqu'ici par le magistrat.
C'est une décision qu'il a mûrement réfléchie. La fonction de Conseil d'État l'intéresse toujours. Mais c'est vrai qu'avec ce nouveau défi, il s'est dit qu'il ne pouvait pas cumuler les deux. Il a finalement fait son choix et c'est tout à son honneur. Donc après 8 ans, il a un bilan solide. Il s'est engagé avec force et honneur pour le canton du Valais.
Avec ce retrait, est-ce que le PLR a un risque de perdre ce siège-là ?
Non, nous ne pensons pas que notre siège est en danger. On va présenter, comme chaque 4 ans, des candidatures de valeur pour l'élection au Conseil d'État, pour défendre notre siège. C'est vrai qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. On l'a déjà perdu le siège une fois. On pourrait le reperdre. C'est une hypothèse, mais on va se battre pour le garder.
Le comité cantonal du PLR Valais se réunira la semaine prochaine pour définir la procédure de sélection des candidatures pour le Conseil d'État. Les élections auront lieu en mars 2025. En Valais toujours, la demande des partis a été entendue par le Parlement. Suite aux intempéries qui ont dévasté une partie du canton cet été, le Grand Conseil a accepté hier à l'unanimité de créer une commission d'enquête parlementaire. Elle devra déterminer la responsabilité de l'État dans ces crues historiques et identifier les éventuels dysfonctionnements qui ont mené au retard de sécurisation du Rhône. Elle aura aussi pour mission de formuler des recommandations concrètes pour prévenir de futurs blocages.
À Genève, le peuple devra bientôt dire s'il souhaite voir baisser ses impôts.
La campagne en vue des votations du 24 novembre a en effet été lancée cette semaine. L'ensemble de la droite genevoise soutient cette baisse de 8,7% en moyenne pour les personnes physiques. La gauche, elle, s'y oppose. C'est le cas de Thomas Wenger, président du Parti socialiste genevois et député au Grand Conseil. Tania Saspinard lui a demandé ce qu'il répond aux personnes qui espèrent retrouver du pouvoir d'achat grâce à cette baisse d'impôts.
Je leur réponds que le Parti Socialiste comprend très bien qu'ils ont besoin de cette baisse d'impôts et de retrouver du pouvoir d'achat pour pouvoir payer leurs factures. Simplement, cette baisse d'impôts prévue par la droite et le Conseil d'État, elle charge beaucoup trop la barque. Elle est pour tout le monde, y compris les personnes qui ont des revenus élevés à très élevés. Et le problème, c'est qu'elle menace un certain nombre de prestations à la population. Donc nous, ce qu'on répond, c'est qu'il faut revenir avec une autre baisse d'impôts qui soit ciblée sur la classe moyenne et la classe moyenne inférieure, mais qui ne baisse pas les impôts pour les personnes les plus aisées du canton. On a aujourd'hui une situation financière qui permet de maintenir les prestations, et ça c'est le discours de la droite, de dire avec les baisses d'impôts, mais nous la crainte c'est qu'une fois qu'on aura accepté ces baisses d'impôts, elles seront pérennes, et puis tôt ou tard quand les vaches seront plus maigres, on aura des coupes dans les prestations qui seront demandées par la même droite.
Si elle est acceptée, cette baisse d'impôts entrera donc en vigueur dès 2025. Si vous avez l'habitude de faire vos courses de l'autre côté de la frontière et de les ramener en Suisse, sachez que vos achats seront bientôt taxés à partir de 150 francs au lieu de 300 actuellement. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier, a indiqué hier le Conseil fédéral. C'est une mesure voulue par le Parlement pour lutter contre le tourisme d'achat.
Le militant écologique Paul Watson demande l'asile politique à la France.
Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd et défenseur des baleines incarcéré au Groenland depuis près de 3 mois a envoyé une lettre dans ce sens à Emmanuel Macron. C'était il y a quelques jours. Hier, la présidente de Sea Shepherd France a donné plus de détails lors d'une conférence de presse. Ariane Haslar, cela permettrait à Paul Watson d'échapper à la demande d'extradition du Japon pour des faits qui datent de 2010.
Oui, c'est justement pour tenter d'éviter cette extradition que cette demande d'asile a été formulée, pour faire en sorte aussi que l'intérêt médiatique autour du cas de Paul Watson ne retombe pas. Opposant historique à la chasse aux baleines, celui qu'on surnomme le capitaine risque jusqu'à 15 ans de prison s'il était extradé au Japon. Le gouvernement japonais l'accuse d'avoir causé des dégâts et des blessures sur un baleinier nippon lors d'une campagne de Sea Shepherd en 2010. Pour ses soutiens, ces faits ne sont que des prétextes pour se débarrasser définitivement de celui qui n'a cessé de se battre contre la chasse à la baleine. D'origine canadienne, Paul Watson réside en France depuis 2015 et lors de son arrestation au mois de juillet, Paris avait demandé à Copenhague de ne pas l'extrader vers le Japon. Autant de raisons pour lesquelles il se tourne aujourd'hui vers Emmanuel Macron. Pour l'heure, on ignore si ce dernier lui a répondu. Ariane Hasler, RTS Info, Paris.
La Suisse doit continuer à soutenir l'UNRWA, c'est ce que demandent des figures de la diplomatie suisse comme Carla Del Ponte, Jacques de Watteville ou encore Yves Daccord. Ils ont écrit hier au Conseil des États avec l'espoir qu'ils reviennent sur la décision du Conseil national, arguant que l'agence de l'ONU est vitale pour tous les réfugiés palestiniens du Moyen-Orient. La commission de politique extérieure de la Chambre haute devrait se prononcer à la fin de la semaine prochaine.
C'est une page qui se tournera bientôt, la fin de la FM s'approche.
Oui, vous avez peut-être entendu ce message sur nos ondes, c'est dernier jour.
Bonjour, vous écoutez actuellement RTS La Première en FM. Souvenez-vous, dès le 31 décembre, vous n'entendrez plus rien sur cette fréquence.
Tout passera donc bientôt par le numérique, mais pour nous écouter, il faudra vous tourner vers la technologie DAB+ ou Internet, car la FM Miruna Coca-Cosma est désormais une technologie obsolète.
RTS Première, Option Musique, SRF 1 ou encore Rete 1, la SSR va cesser de diffuser ses chaînes de radio sur la bande FM avant la date limite fixée par le Conseil fédéral à fin 2026. Une transition annoncée depuis 2014. Une transition nécessaire aussi, moins de 10% des auditrices et auditeurs écoutent la radio en FM. Un changement qui s'explique par le contexte financier tendu de la SSR. Maintenir trois technologies de diffusion en parallèle coûte cher. Mais il y a aussi les avantages. La technologie DAB+ offre une meilleure qualité sonore et un choix de programme plus vaste. Pour se préparer à ce changement, il suffit de s'équiper d'un récepteur compatible DAB+ ou d'un adaptateur. Relier son smartphone à sa voiture avec ou sans fil est déjà une solution. Globalement, les nouveaux véhicules en sont équipés depuis plusieurs années. Et si vous êtes un inconditionnel de la bonne vieille radio, il est aussi possible de s'adresser à un spécialiste pour y greffer un module DAB+ ou Bluetooth, histoire d'entendre encore le fameux petit grésillement.
Et en hockey sur glace enfin, derby, Lémanique figurera au programme des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Lausanne HC a fini la saison régulière en beauté hier soir en s'imposant 2-0 sur la glace de Tapara Tampere en Finlande. Lausanne, troisième de la saison régulière, retrouvera donc le tenant du titre Genève Servette le mois prochain, tandis que Fribourg-Gottéron affrontera les Suédois de Växjö Lakers.
Merci beaucoup pour ce journal, Charlotte Frossard. À 6h38, les chroniqueurs sont arrivés. Et chroniqueuse, Sandra Timmerly, c'est vous. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Les unes du jour.
Autoroute, asile, mes rêves aussi.
Il y a aussi Didier Pradervant, Jiggy Jones et Anthony Levert, parce que je parle que de la femme, il y a aussi des hommes autour de la table. Didier Eureka, du béton biomimétique.
Imprimé en 3D, il s'inspire des écailles de poisson et de nos fémurs et il affiche d'incroyables performances.
Anthony, sport matin, une réorientation sportive.
Effectivement, le bobsleigh, on va découvrir pourquoi justement ce sport de conversion et puis que bah, c'est pratique d'avoir une autre carrière avant.
Un sport de reconversion. Jiggy Jones, une révélation dans le monde du jazz.
Oui, du jazz ce matin pour se réveiller en douceur. Elle s'appelle Samara Joy et elle vient de sortir un album.
A tout de suite.
RTS La Première, Valérie Auer.
Sport matin. Et donc les sports d'hiver qui vont reprendre ces prochaines semaines, on s'intéresse au bobsleigh ce matin. Anthony, vous nous le disiez, un sport de reconversion, c'est-à-dire?
Eh bien que contrairement au foot ou au hockey, que l'on commence à 5 ou 6 ans, on arrive plus tard au bob. La première raison est géographique. Tout le monde n'habite pas à côté d'une piste. L'autre point, ce sont les compétences physiques. Les gymnastes et les athlètes travaillent depuis très jeune leur explosivité. Une aptitude capitale ensuite lorsqu'il faut pousser le bob. Béat Efti est 4 fois médaillé olympique, dont une fois en or. Aujourd'hui, il possède sa structure privée et il parcourt le pays à la recherche de nouveaux talents.
Dans le bobsleigh, on est toujours issu d'un autre sport. Je suis toujours à la recherche de jeunes athlètes. Pour cela, je vais régulièrement aux fêtes de gymnastique, où tous les gymnastes jouent également au volley ou handball et font de l'athlétisme. C'est vraiment dans ces fêtes que vous avez le plus de chances de rencontrer et d'atteindre ces athlètes. Dans le bob, on commence seulement à 16, 17 ou 18 ans. Et c'est pour ça que tout le monde vient d'un autre sport.
Ce recrutement sur le terrain, c'est ce qui est arrivé au Genevois Cédric Grand, médaillé de bronze en bob à 4 lors des Jeux Olympiques de Turin en 2006.
En fait, j'ai commencé par l'athlétisme. J'ai toujours été passionné de bobsleigh depuis tout petit. Et en 97, un pilote m'avait justement demandé si j'étais intéressé de faire des tests de poussée, etc., pour voir si j'étais en fait intéressé par ce sport. Donc évidemment, j'ai tout de suite accepté, sans lâcher l'athlétisme. J'ai fait les deux sports en parallèle jusqu'à l'âge de 24 ans ou après 25 ans. Après, j'ai lâché l'athlétisme et je me suis consacré à 100% au bobsleigh.
Tous les athlètes de bob ont une précédente carrière hors glace derrière eux.
Oui, en tout cas dans l'élite. La seule nuance que j'ai trouvée, c'est la légende allemande André Lange, 4 fois champion olympique entre 2002 et 2010. Avant d'entrer en bob, il faisait de la luge. Donc d'une certaine manière, on peut dire que c'est notre exception à la règle, vu qu'il pratiquait déjà un sport de glace.
Ça veut dire qu'un sportif doit forcément être explosif pour se lancer dans une deuxième carrière.
Alors pour Cédric Grand, cela dépend de votre place dans le bob.
On va dire que le pousseur doit vraiment être un athlète, on va dire, très accompli, que ce soit sur le plan de la vitesse, de l'explosivité ou de la puissance, alors que le pilote, lui, il aura moins besoin d'avoir un niveau athlétique très élevé.
Ce qui explique que parfois des pilotes auto passent de la route à la glace. Exemple, dans les années 50, l'Espagnol Alfonso de Portago participe aux 24 heures du Mans et aux championnats du monde de Formule 1. Et en 1956, lors des Jeux de Cortina d'Ampezzo, il crée la première équipe d'Espagne de bob à 4 avec ses trois cousins. Plus proche de nous, c'est le nouveau challenge de la vaudoise Simona de Silvestro et son passé sur les circuits l'aide beaucoup.
Par exemple, au niveau du matériel, ben, le bob, on peut considérer ça comme une voiture. Donc, il y a des choses qui fonctionnent aussi en voiture qu'on peut essayer sur le bob. Donc, à ce niveau-là, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Au niveau du pilotage, c'est peut-être un peu différent, mais la vitesse et tout, c'est quelque chose où je suis assez habituée. Et puis, je pense que ça m'a assez aidé aussi jusqu'à maintenant parce que je crois que je remarque assez vite si je fais une bêtise ou pas. Donc, je peux corriger ça assez vite vers quelqu'un qui a pas vraiment cette expérience. Donc, ça, de ce côté-là, c'est quelque chose qui me donne aussi pas mal de confiance pour avoir déjà ce bloc qui est pas mal, ouais.
Dans le cas comme celui de Simona de Silvestro, qui court en bob à deux et en monobob, la grande partie du travail se fait sur l'explosivité. Elle nous a même raconté avoir appris à courir depuis qu'elle fait du bobsleigh.
On comprend la nécessité du sport d'attirer des athlètes venus d'ailleurs. Mais pour ces sportifs, Anthony, pourquoi se lancer dans le bob?
Eh ben, ça dépend un peu de chacun. Cédric Grand était passionné de bobsleigh depuis qu'il était petit. Et Simona de Silvestro avait un rêve. Participer aux Jeux Olympiques, pas possible qu'on ait pilote automobile. Les places sont certes chères, mais c'est sûr que pour des athlètes trop justes dans leur discipline, l'attrait d'une participation olympique est bien présente. Tous n'y arrivent pas, mais si à 20 ans vous vous rendez compte que ça ne va pas le faire dans votre sport, oser sortir de sa zone de confort avec ce que vous avez déjà comme bagage peut vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets.
Et recyclez-vous dans le bob. Ah,
voilà. Voilà.
Tous au bob.
C'est la leçon du jour.
À 52 ans, on peut encore ou non?
On en parle après.
C'est très explosif.
Les unes des journaux du jour, Sandra Timmerny, on commence en Proche-Orient.
Oui, avec cette photo de désespoir, je crois qu'on peut le dire. Elle est terrible, cette photo en tête du temps. On y voit une mère, deux enfants, des tentes déchiquetées derrière, avec cette légende, UNRWA, un plaidoyer suisse, puisque des personnalités suisses, comme l'ex-procureur Carla Del Ponte, Yves Dacor, qui dirigera le CICR, encore Charles Kléber, eh bien, ils sont 18 en tout à défendre l'agence dans une lettre ouverte. On en a parlé dans le journal. Cette lettre est destinée au Conseil des États qui, le 24 octobre prochain, doit dire de manière définitive cette fois-ci si la Suisse coupe ou non les vivres de l'organisation onusienne. La migration mais européenne en tête du Blick puisque l'UE discute aujourd'hui de mesures de durcissement et la NZZ nous montre le nouveau patron du secrétariat d'État aux migrations, le SEM, Vincenzo Mascioli. La pression est énorme dès le début, nous dit le journal. L'étude qui sème le doute sur l'élargissement de l'A1 entre le Vangeron et Nyon, ça c'est en une de 24 heures, objet sur lequel nous voterons bien sûr le 24 novembre. Eh bien, un rapport de l'Office fédéral des routes prévoit une augmentation de 14% de la circulation l'année suivant la fin des travaux déjà. Et le même sujet en tête de la Tribune de Genève, autoroute élargie, quel impact pour Genève. Et enfin, ce visage qu'on connaît bien, un regard en tête du nouvelliste, Frédéric Favre, deux mandats et puis s'en va, puisque le Conseil d'État ne se représentera pas, le conseiller d'État, il prendra la tête de la candidature de la Suisse aux Jeux Olympiques d'hiver 2038.
On parle gros sous aussi dans les journaux ce matin.
Oui, le Taxanzeiger revient sur la taxe douanière que vous devrez payer des 150 francs d'achat à l'étranger dès janvier prochain et non plus 300 francs. Et puis la Luzerner Wiener Zeitung, elle revient sur cette proposition. On a parlé hier matin à cette heure-ci, cette proposition du conseiller national socialiste Yon Pult de supprimer la redevance et financer le service public avec la TVA. Enfin, la précarité en tête du courrier, la précarité, un parcours d'humiliation, puisqu'aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors, l'organisation ATD Carmonde a accueilli à Genève une journée de réflexion à ce sujet.
Place à la nature et aux rêves maintenant.
Oui, avec tout d'abord cette jeune femme debout dans une rivière. Elle a l'eau jusqu'aux cuisses en tête de Terre et Nature. Une biologiste en immersion, la directrice de la nouvelle antenne romande du Bureau Suisse de Conseil pour la Pêche. Il s'agit de Amandine Bussard. Le revers du médaillon, c'est en tête du quotidien Jurassien. Alors attention, pas le revers de la médaille, hein, mais bien du médaillon. On parle donc de chasse. L'appétit pour les morceaux nobles du chevreuil, celles les médaillons en tête, et telles que les 1200 bêtes tirées dans le canton du Jura ne suffisent pas à contenter les amateurs. Alors les restaurateurs sont ainsi obligés de compléter l'offre avec de la viande qui vient d'Alsace et d'Autriche. Alors je ne sais pas si on dort bien après la chasse, toujours est-il que les Suisses dorment de plus en plus mal. C'est la une d'Arc Info, le journal revient en fait sur cette étude qui montre que près d'un tiers des Suisses dorment très mal. Donc il vaut mieux rêver éveillé, comme cette femme en tête de l'illustrée Diane Tell, la chanteuse québécoise. La Suisse était un rêve d'enfant, dit-elle. Elle se confie donc cette semaine à l'illustrée. Elle rêve aussi, elle a encore de l'appétit, comme le dit la liberté. Mathilde Gremaud en freestyle, bien sûr, la championne, bien qu'elle ait tout gagné, bien dans le sport, ce qui est possible de gagner. Elle veut encore améliorer son niveau.
Merci beaucoup pour ces revues. Vous dormez mal, Jiggy Jones?
Oui.
Tout à l'heure.
Vous l'avez sans doute déjà noté, les chaînes radio RTS cessent d'émettre leur programme en FM le 31 décembre. Pour continuer à vous informer, vous divertir, vous faire rêver, danser ou réfléchir, assurez-vous d'être bien passé au DAB+. Toutes les informations sont sur dab+.ch. Et n'oubliez pas, tous nos programmes sont aussi à l'écoute sur l'application Play RTS.
6h47 heures et qu'à Didier Prader vend des os, des écailles de poisson et du béton.
Du béton inspiré par la structure de l'os cortical, c'est la paroi externe dont c'est dur de nos fémurs, et par celle des écailles de poisson, du poisson coelocanthe. On l'appelle le poisson fossile, ses origines remontent à plus de 350 millions d'années. Pour prendre la mesure de ces deux innovations, un rappel, chaque année, dans le monde, on coule près de 14 milliards de mètres cubes de béton, et à raison de 200 kg de CO2 par mètre cube, le secteur de la construction est l'un des plus polluants au monde. On frôle, attention, les 3 billions de kilos de CO2. Et d'autant que malgré toutes ses qualités, ce béton a aussi tendance à se fissurer de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et on l'oublie souvent, il n'est pas non plus forcément toujours très résistant lorsqu'on essaie de le fendre, de le casser ou de l'étirer.
Et donc c'est là qu'interviennent fémurs et écailles.
Exactement, et c'est à l'université de Princeton que ces innovations ont été développées. Résultat, pour le béton écaille, on va l'appeler comme ça, eh bien les chercheurs en ont reproduit la très complexe structure en double hélice, à savoir des lamelles empilées les unes sur les autres avec un léger décalage pivotant à chaque couche. Chacune de ces couches est en plus composée de deux lamelles perpendiculaires en forme de mini-croix. À la clé, et merci, l'impression 3D, vu la complexité de cette structure, un béton 1,6 fois plus résistant que ses homologues coulés ou moulés. Il résiste aux fissures, à la flexion et à l'étirement.
Et pour le béton inspiré du fémur, Didier, c'est le même type de résultat?
C'est bien plus résistant, 5,6 fois plus importante, moins de matériaux utilisés aussi, donc économie en ciment, en pollution. Grâce toujours à l'inévitable impression 3D, les chercheurs ont reproduit la structure de l'os cortical du fémur, à savoir des lamelles cylindriques disposées autour d'un canal central, canal recréé à l'aide de tubes droits, de tubes elliptiques.
Et 5,6 fois, vous avez dit, c'est conséquent quand même.
Oui, et surtout que cela ouvre la porte à d'autres recherches et résultats encore plus incroyables en variant l'orientation, la forme, la taille, l'organisation de ces tubes. Cette approche pourrait aussi être utilisée pour fabriquer d'autres matériaux que le béton. Une évidence en tous les cas, à défaut de créer du béton moins polluant ou pas polluant du tout, passer des techniques de coulage et de moulage à l'impression 3D permettrait déjà d'en réduire pour partie l'impact environnemental et d'améliorer ses performances.
C'était Eureka, merci beaucoup Didier.
RTS, la première. La matinale.
Cette question maintenant, si vous pouviez changer l'éclairage public de votre commune, est-ce que vous augmenteriez ou diminueriez la lumière? Question posée aux habitants de Vernier. La ville genevoise planche sur son plan lumière avec la volonté notamment de rétablir des zones obscures pour la biodiversité. Mais avant, elle veut connaître les besoins de sa population. Alors les habitants ont été invités à participer à des marches nocturnes pour faire part de leurs ressentis. Anouk Pernet s'est glissée dans ce qui s'appelle à Vernier la communauté des éclairés.
Sur le chemin obscur d'un parc de Vernier, une vingtaine de personnes avancent d'un pas pressé jusqu'à un rassurant lampadaire.
Donc question à la main levée, si ce chemin était un raccourci sur votre trajet quotidien, combien d'entre vous le prendraient ?
Moins de 10 mains se lèvent.
Est-ce que pour le prendre, vous prendriez votre lampe de poche de téléphone ou est-ce que vous le traverseriez comme ça ?
Ça dépend de l'état mental.
Ça dépend de l'état mental, c'est carrément. Autre question, qu'avez-vous craint en marchant là, par rapport à vos...
Le chien.
Flaque d'eau, trou.
La personne.
Ah oui, la personne en face, on ne savait pas, effectivement. Intéressant d'ailleurs, promenade de chien sans lumière.
La peur dans le noir, c'est un des thèmes du soir. Mais moins de lumière ne veut pas forcément dire plus de crainte, souligne la guide de la marche nocturne, Virginie Nicolas, conceptrice lumière mandatée par la ville de Vernier.
On s'est rendu compte, à force de questionner un peu les gens, que le fait que l'environnement soit qualitatif, rénové par exemple, jouait largement autant que le niveau d'éclairement, et qu'il y a aussi un seuil de bascule où quand il y a trop de lumière, on se sent très mis en scène et très exposé, et on se sent un peu plus cible en fait. Donc il y a même une seuil de bascule notamment sur la sécurisation des quartiers difficiles où on a fait une bascule où en fait les gens se sentent pas bien parce qu'il y a trop de lumière.
Et trop de lumière, il y en a visiblement sous ce lampadaire, mesure à l'appui.
Juliane, on est à combien ?
121 lux.
C'est trop. Ouais. On est 600 fois plus puissant que la Lune.
Ouais. La dernière marche nocturne, le plus fort qu'on ait mesuré, c'est 45.
Nouvelle mesure, quelques mètres plus loin, sous un lampadaire orangé.
Alors,
4.
Vous voyez que là, en fait, on se parle, on est bien. Là-bas, il y avait 120. Il y en avait un peu trop. Hein.
Pas besoin donc d'un fort éclairement pour voir où on met les pieds. D'autant plus si le matériau du sol est bien choisi, souligne la conceptrice lumière Virginie Nicolas.
En fait, si les sols sont clairs, avec deux fois moins de lumière, on peut voir très bien parce qu'on distingue l'environnement. On travaille beaucoup avec les paysagistes et les aménageurs pour essayer d'éclaircir un peu les sols. On commence à retravailler avec des bétons clairs, avec des asphaltes plus clairs. Et ça, ça nous permet d'éclairer moins.
Des explications données tout au long de la marche nocturne afin que tout le monde ait les mêmes bases. Avant de débattre du plan lumière, et là, chacun et chacune à son idée, que ce soit la policière.
Pour moi, le fait de rendre le quartier un peu plus sombre va pas du tout créer plus de problèmes. La circulation routière aussi, le fait de moins voir, on ralentit. Et ça, c'est vraiment clair et net que ça va diminuer les accidents.
Ou le travailleur social qui sillonne la ville la nuit.
On dit par exemple éteindre les parcs, mais il y a aussi tout un public qui aime bien être dehors la nuit. Par exemple, les jeunes, faut pas oublier d'avoir des aménagements pour eux aussi. On critique aussi vite le fait que voilà, les gens qui sont dehors la nuit font des déchets, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas d'éclairage du tout, on ne voit pas les déchets, on ne voit pas les papiers, on ne voit pas où sont les poubelles.
Des besoins qu'ils pourront répéter le lendemain de la marche, lors d'un atelier où ils devront aussi se mettre dans la peau d'une personne malvoyante, d'un cycliste ou d'une jeune fille dans le noir. Ces consultations citoyennes permettront de finaliser le plan lumière d'ici la fin de l'année. Actuellement, Vernier éteint ses lumières dès 1h du matin dans plusieurs quartiers. À voir si l'avis de la population viendra bouleverser ses horaires.
121.
Avec 6 fois moins, on pourrait être bien. On va continuer par là.
Reportage à Vernier, Anouk Pernet, direction maintenant le Bronx à New York ce matin pour découvrir une artiste qui fait beaucoup parler d'elle, Jiggy Jones.
Oui, et si New York est réputée pour sa culture hip-hop, toute discipline confondue, que ce soit le rap, le break ou le graffiti, cet artiste nous rappelle que le jazz, même s'il est né à la Nouvelle-Orléans, s'est épanoui dans cette ville dans les années 30. Et malgré son évolution au fil des années, elle a décidé de l'interpréter dans sa forme originelle.
Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here
Donc vous avez pu entendre sa voix et le morceau qui lui a permis de tout rafler à la cérémonie des Grammy Awards l'année dernière, y compris la récompense pour la révélation de l'année. Je vous donne son nom, Samara Joy, qui, comme vous l'entendez à l'instant, a un talent exceptionnel. D'autant plus si on prend en compte son âge. Elle a 24 ans.
On ne dirait pas. Non. Oh là là. Comment expliquer ce choix musical qui peut paraître anachronique en 2024?
Alors le jazz, tout comme le punk rock qu'on a écouté hier, n'est pas mort, mais il est vrai qu'il a évolué avec notamment toute la vague d'artistes californiens comme le saxophoniste Kamasi Washington qui fait un jazz plus inspiré du hip-hop et de la soul. Mais là, Samara s'inscrit dans la lignée des grandes chanteuses de jazz traditionnelles hein, comme Sarah Vaughan ou Billie Holiday. You Stepped Out of a Dream, tout comme elle pour les amoureux de cette musique, qui la voit sortir d'un rêve avec un nouvel album, son quatrième en 4 ans. Et même si elle descend d'une famille de musiciens gospel et soul et qu'elle chante depuis toujours, il est étonnant d'apprendre qu'elle ne pratique le jazz que depuis ses 18 ans. Bon, de manière virtuose, puisqu'elle a remporté déjà plusieurs prix et compétitions avant même son premier album, ainsi que la bourse Ella Fitzgerald pour étudier justement le jazz à l'Université d'État de New York.
Back home, no more dues. I promise no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart's been right there all along.
Un album de jazz, c'est souvent des standards, mais réactualisés, comme le titre Autumn Nocturne qui date de 1941 et qui a bénéficié de nouveaux arrangements par le saxophoniste Kendrick McAllister, titre coproduit également par Samara. On trouve aussi sur cet album une version de Reincarnation of a Lovebird, un morceau écrit par le regretté et légendaire Charlie Mingus, contrebassiste à la base, mais qui était tout aussi à l'aise au piano, qu'au trombone et au violoncelle.
I'd rather love you while you're in my dreams. Maybe then you'll learn to love me. If only it were that easy. Only a dream to me you were. And then you slowly slipped away.
C'est un phénomène, sa voix est clairement celle d'une diva du jazz qui a du vécu et pourtant sa carrière ne fait que commencer puisqu'elle fait partie de la génération Z, même si elle fait de la musique de la génération qu'on appelait silencieuse tout en postant des vidéos sur TikTok. Comme quoi la musique nous prouve encore que ce n'est pas qu'une histoire de tendance ni d'époque et qu'on peut être une révélation présente en chantant une musique du passé et incarner le futur.
Merci beaucoup Jiggy Jones pour ce réveil en douceur. Vous aviez des scrupules après hier ou quoi?
Non, il fallait juste contrebalancer un petit peu.
Donc vous en avez gardé une pour la fin?
Évidemment, ce serait dommage de s'en priver.
À demain.
Day by Day, un morceau qu'on retrouve sur le dernier album de Samara Joy sorti vendredi et qui s'intitule Portrait.
Infotrafic RTS.
Mis à part sur la Transjurane, entre Port-en-Truy et Saint-Ursanne, ainsi que dans les montagnes neuchâteloises sur la route qui mène au Locle depuis la France, la circulation s'écoule ailleurs sans difficulté particulière.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Le temps sera changeant aujourd'hui avec quelques précipitations sur le Jura et l'Ouest lémanique, surtout ce matin. Ailleurs, et pour le reste de la journée, un temps sec avec de belles éclaircies de Feune, du Valais central au Préalpes. Les températures 17 degrés cet après-midi et jusqu'à 23 en Valais. Jeudi 17 octobre.